Bonjour à toutes et tous, c'est Jeannie à l'antenne, bienvenue dans ce numéro de En toutes lettres, un billet littéraire de Radio Campus Grenoble. Vous écoutez En toutes lettres sur Radio Campus Grenoble 90.8. Elles sont belles, elles sont dangereuses et d'une élégance folle digne des James Bond Girls. Pour ce premier numéro, partons à la rencontre de quelques-unes des femmes fatales qui habitent les sulfureux recoins de la littérature. Leurs figures sont nombreuses à travers les siècles et aujourd'hui, je vous propose d'aller en découvrir une petite galerie avant de se pencher plus en détail sur deux d'entre elles, en espérant vous donner l'envie de tenter vous-même l'aventure de leur rencontre en ouvrant les récits dans lesquels elles règnent. Mais surtout, à travers ces portraits de dames, de cœurs et de piques, on pourra se demander ce qu'il y a derrière ces figures de femmes dangereuses. Quels fantasmes, quelles évolutions du regard de la société, et peut-être même quelles peurs portent-elles. La femme fatale, quel visage et quelle réputation a-t-elle dans l'imaginaire collectif ? Eh bien, c'est une femme souvent très belle, mais d'une beauté ténébreuse ou du moins mystérieuse. Elle attire et séduit les hommes, mais s'avère à la longue être dangereuse. Dangereuse pour qui l'aime, et peut-être même pour l'ordre social dans lequel elles évoluent. Au grand nombre de leurs armes, on compte le charme, le sexe, et pour la plupart d'entre elles, beaucoup d'intelligence, d'indépendance et de détermination. Elles font figure tantôt d'alliés troubles, tantôt de traîtresses, tantôt d'objets de discorde ou d'anti-héroïnes, à la fois fascinantes, admirables et dérangeantes. Dans la littérature, elles secouent les codes et vont à l'encontre de l'image qu'on a longtemps entretenue des femmes dans la bonne morale, à savoir des figures sages, douces, tendres et mesurées, altruistes et très régulièrement caractérisées par un rôle ne se résumant qu'à être les amoureuses des héros. Néanmoins, comme on va le voir plus en détail, les femmes fatales incarnent du même coup l'idée plus ou moins inconsciente pendant des siècles du danger porté par la femme, surtout la femme trop belle, trop indépendante, dans un univers où le deuxième sexe n'a longtemps été présent que comme ornement, comme monnaie d'échange, ou pour être les vecteurs des représentations de la bonne morale, je pense aux figures de matrone, de la mère de famille, etc. Et notre première rencontre remonte à plusieurs siècles avant notre ère. L'une des plus anciennes femmes fatales de la littérature et de la mythologie est sans doute la belle Hélène de Troie qui apparaît dans l'Iliade d'Homère, écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Hélène est plutôt soumise, mais par sa beauté même et par ses amours, elle sème le trouble et est à l'origine de la guerre de Troie. Elle est la pomme de la discorde, plus ou moins une version païenne de notre Ève biblique.
On me nomme Hélène la blonde fille de Léda. J'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Et pourtant, ma nature est bonne. Mais le moyen de résister, alors que Vénus la frétonne, se complète en vous tourmenter, se complète en vous tourmenter. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu?
Comme elle le chante dans cet extrait, Hélène a bon fond, mais Vénus se complète à la tourmenter. Et justement, rappelons un peu l'histoire de cette Hélène. Quand on a pour père Zeus et pour mère l'une des femmes les plus séduisantes de Sparte, la dénommée Léda, on ne peut être que divinement belle. Et forcément, voilà qui va poser problème et accessoirement déclencher la plus grande guerre de toute la mythologie gréco-romaine. Épouse du prince Ménélas, Hélène cède pourtant aux avances du prince troyen Paris, qui va jusqu'à l'enlever, car c'est bien connu, c'est comme cela que l'on fait. Romulus ne s'encombrera pas non plus de galanterie et fera lui aussi enlever les femmes sabines pour peupler ce qui deviendra Rome. Mauvaise idée concernant Hélène. Ménélas et son frère Agamemnon partent à sa recherche et mettront Troie à feu et à sang. Après leur victoire, Hélène trouve le moyen de plaire encore à son ancien mari qui repartira avec elle. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que de cette manière, eh bien, la jeune femme reste prisonnière de son physique attrayant tout en provoquant autant de morts autour d'elle sans avoir vraiment décidé de grand-chose par elle-même au final.
Ils se tiennent appuyés sur leurs boucliers. Leurs longues lances sont fixées dans la terre. Cependant, Paris et le vaillant Ménélas, armés de forts javelots, vont combattre pour vous, Hélène, et le vainqueur vous nommera la compagne bien-aimée de sa couche.
Cependant, dans la mythologie, quand les femmes rudement belles prennent un peu plus de décisions qu'Hélène, soit elles sont héroïques, soit elles créent des désastres comme Pandore, déversant tous les malheurs sur le monde à cause de sa curiosité, ou bien sûr Ève avec sa pomme. Toutefois, l'on reste encore à travers ces quelques exemples, avec des femmes ne se rendant pas vraiment compte de la portée de leurs bêtises. Alors allons voir ce que cela donne avec une femme de très fort caractère et pour le coup parfaitement consciente de tous ses coups, comme une joueuse d'échecs. Laissez-moi donc vous présenter la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses de Pierre Coderlos de Laclos, publiée en 1792. En plus d'être très belle et élégante, la marquise est d'une intelligence remarquable et elle a un vrai sens de l'observation de toute l'hypocrisie sociale de son temps. Elle prend plaisir à se surnommer la nouvelle Dalila. Dalila est aussi une femme fatale d'ailleurs qui, dans la Bible, envoûte Samson pour lui prendre sa force avant de le trahir. On peut aussi y voir un petit pied de nez avec ce surnom de Nouvelle Dalila au récit La Nouvelle Héloïse, roman épistolaire sensible et sentimental de Rousseau, publié 30 ans plus tôt. Avec Merteuil, en effet, on est bien loin de la sensiblerie. Si elle a bonne réputation dans le milieu mondain parisien, la marquise est en réalité un monstre en jupon. Elle est tyrannique, manipulatrice, méprisante envers les autres femmes qu'elle estime soumises et emprisonnées là où elle a réussi à dominer son monde.
Vous autres hommes, vous êtes toujours si sûrs de vous. On vous choisit, on vous prend, et vous croyez nous avoir conquises. Notre seule façon de mettre les points sur les i, c'est de rompre les premières. En ce qui concerne Courte, ce qui m'agace...
C'est que pour une fois, la suite des opérations échappe à ton contrôle.
Il n'y a que toi qui me connaisse.
Une épouse parfaite.
Oui.
Voilà le point faible. Il croit épouser la vertu. Il faut qu'il épouse le vice.
Elle n'a peut-être pas les mêmes dispositions que toi.
Oh, une jeune fille, ça se forme.
On l'entend dans cet extrait de film qui transpose les liaisons dangereuses au XXe siècle dans un monde de grands bourgeois des années 60. Tout doit servir le bon plaisir de Madame de Merteuil et en premier lieu son admirateur Valmont. Ils se jouent ensemble un jeu à celui qui sera le plus machiavélique, quitte à briser le cœur de dames fort vertueuses, telles que Cécile, une pauvre oie tout droit sortie du couvent, ou encore la très jolie et très chrétienne Madame de Tourvel, dont Valmont est tombé amoureux et que Merteuil va vite voir comme une rivale, sans vouloir jamais reconnaître ouvertement sa jalousie, bien sûr. Mais tout l'intérêt du personnage de Madame de Merteuil est qu'elle n'est pas bêtement et gratuitement mauvaise. Elle connaît l'hypocrisie de la bonne société sur la place des femmes et a horreur de l'éducation d'oie blanche qu'on leur donne. Elle a donc décidé de jouer de tous les codes sociaux pour dominer derrière les apparences. Ce qui la motive est une vision assez libre de la femme qui, selon elle, ne doit pas se laisser enfermer dans le carcan du mariage et de toutes les autres convenances qu'on leur inflige. D'autant que, note-t-elle, on pardonne infiniment moins aux femmes les mêmes écarts qu'aux hommes. Elle n'hésite pas à être terriblement cynique et nous le dit elle-même dans une de ses lettres où elle écrit par exemple « Je suis sûre que si j'avais le bon esprit de quitter à présent mon amant, il en serait au désespoir. Et rien ne m'amuse comme un désespoir amoureux. Il m'appellerait perfide, et ce mot de perfide m'a toujours fait plaisir. C'est, avec celui de cruel, le plus doux à l'oreille d'une femme. »
J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous a rendu tellement inventive.
Mais a-t-on le choix si l'on n'est qu'une simple femme? Une femme est obligée d'avoir bien plus de talent que vous, messieurs. Un homme ruine notre réputation avec quelques petites phrases bien venimeuses. C'est pourquoi j'ai dû inventer la femme que je suis. Je savais que je suis venue au monde afin de dominer votre sexe et de venger enfin le nôtre. Quand j'ai fait mon entrée dans la société, j'avais 15 ans. Je savais déjà quel était le rôle qu'on m'assignait pour le reste de mes jours, me taire et faire ce qu'on m'ordonnait. Cela me permit d'apprendre à écouter, sentir, observer. Bon, je me moquais bien de ce qu'on me disait, cela n'avait aucun intérêt. Mais je m'exerçais à voir ce qu'on essayait de cacher. Je pratiquais le détachement. J'étais entraînée à sourire pendant que sous la table j'enfonçais une fourchette entre la peau et mes ongles. Je devins très vite une virtuose de l'hypocrisie. Ce n'était pas le plaisir que je voulais atteindre, mais la connaissance.
La marquise de Merteuil est une libertine, mais au sens le plus intellectuel du terme. Elle apprécie de coucher, mais pas tant pour le plaisir du sexe que pour celui du pouvoir sur autrui et de la connaissance des sentiments. C'est avant tout une cérébrale et une personne érudite qui réfléchit aux mécanismes de la société qui l'entoure. En effet, avant d'être un profiteur et un jouisseur dans le sens où on entend libertin actuellement, au XVIIe siècle, le libertin est avant tout un philosophe et un penseur qui s'affranchit des idées traditionnelles et notamment religieuses. Le terme vient d'ailleurs du latin « libertus » qui désigne un esclave affranchi. Arrive le XIXe siècle avec une belle brochette de femmes fatales, au portrait desquelles s'ajoute une dimension sociale. Si certains auteurs réécrivent des mythes, d'autres explorent les bas-fonds de l'âme humaine et de la société en mutation, en pleine révolution industrielle et naissance de la classe dite prolétaire. Voici donc des femmes séduisantes et dangereuses dans le bas-peuple. Thérèse Raquin, dans le roman du même nom d'Émile Zola, publié en 1867, ouvre le bal. Elle est nerveuse, marquée par une enfance pour le moins instable, et va stimuler le bras d'un meurtrier. Son père est capitaine français, et sa mère est d'origine nord-africaine, qui meurt alors que Thérèse n'a que 2 ans. Confiée à sa tante, Madame Raquin, elle grandit avec son cousin Germain, Camille, qu'on lui fait épouser dès qu'elle a 21 ans. Un choix trop raisonnable pour cette jeune femme qui se sent enfermée et qui s'enflamme pour un ami de Camille, Laurent. Si celui-ci est déjà une brute épaisse, Thérèse lui fait suffisamment tourner la tête pour le transformer carrément en assassin. Assassin de son mari, tant qu'à faire. Alors, faut-il blâmer cette femme instable et monstrueuse, ou son milieu social, qui ne peut que créer des monstres à force d'oppression? C'est l'une des questions posées par ce texte qui décortique le poids de l'univers social, des familles et des hérédités. Cette face d'amante s'était comme transfigurée. Elle avait un air fou et caressant, les lèvres humides, les yeux luisants, elle rayonnait. La jeune femme, tordue et ondoyante, était belle d'une beauté étrange, toute d'emportement. Toujours chez Zola, nous rencontrons Nana, également dans le roman du même nom, publié en 1880. Fille de Gervaise et de Coupeau, le couple d'alcooliques de l'Assommoir, ce qui relève déjà de nouveau d'un certain passif familial, on peut dire que Nana part assez mal dans la vie. Fille mère à 16 ans, elle se prostitue pour subvenir à ses besoins, mais en apparaissant dans le rôle d'une Vénus sur la scène des théâtres parisiens. Elle séduit le public masculin qui vient par la suite lui présenter ses hommages de très près. Pour leur perte, puisque Nana leur fait tourner la tête et les fait tourner en bourrique, notamment le comte de Muffa, qu'elle trompe allègrement. C'est ici donc une Vénus déchue, proche de celle de Rimbaud dans un de ses célèbres poèmes, une Vénus malade et marquée par le vice. Mais celui-ci relevant de la survie et portant une critique du petit milieu des théâtres parisiens avec ses hommes entreprenants auprès des cocottes qu'ils ne connaissent que très peu au final. Et pour clore ce petit panorama, avant de se pencher sur deux femmes en particulier, j'ai pensé à vous présenter le cas intéressant de Conchita Pérez dans « La femme et le pantin » de Pierre Louis, publié en 1898. Nous entrons ici dans l'univers de la domination et du sadomasochisme. En plein carnaval de Séville, le jeune André Stenavol tombe sous le charme d'une certaine Conchita Pérez, dit Concha, d'une beauté du diable. Mais elle est mariée. Lorsqu'il rencontre un ami, Don Mateo Diaz, celui-ci lui raconte tout ce qu'elle lui a fait endurer pendant des années, les tromperies, les humiliations qui ont fait de lui un pantin, doublé d'un homme violent, au grand ravissement de Conchita Pérez, à la fois sadique et masochiste. Son corps souple et long était expressif tout entier. On sentait que, même en lui voilant le visage, on pouvait deviner sa pensée et qu'elle souriait avec les jambes comme elle parlait avec le torse. À cet air célébrissime, nous allons dresser plus en détail le portrait de deux femmes fatales, immortalisées d'abord dans la littérature, puis à l'opéra. D'un côté, une bohémienne ténébreuse, Carmen et son oiseau rebelle, et de l'autre, une princesse tueuse, Turandot. Carmen est une nouvelle de Prosper Mérimée, publiée en 1845. Cette Carmen mène par le bout du nez une bande de contrebandiers et séduit les agents de la police comme les badauds. Parmi eux, le brigadier José de Maria, qui devient, sous son influence, le pire des voyous alors qu'il était un petit militaire bien rangé. Fou amoureux d'elle, il devient fou tout court lorsqu'il est confronté à la liberté absolue de Carmen. Elle ne veut pas lui appartenir, ni à lui, ni à personne. L'amour est un enfant de bohème, comme elle le chante, mais il n'empêche pas de se faire poignarder quand on va trop loin, ou peut-être quand on fait, en tant que femme, ce qui est vu avec plus d'indulgence pour les hommes. Je vous propose d'écouter un extrait de la nouvelle de Prosper Mérimée.
Un soir, à l'heure où l'on ne voit plus rien, je fumais, appuyé sur le parapet du quai, lorsqu'une femme, remontant l'escalier qui conduit à la rivière, vint s'asseoir près de moi. Elle avait dans les cheveux un gros bouquet de jasmin, dont les pétales exhalent le soir une odeur enivrante. Elle était simplement, peut-être pauvrement vêtue, tout en noir, comme la plupart des grisettes dans la soirée. Les femmes, comme il faut, ne portent le noir que le matin. Le soir, elles s'habillent à la Francesca. En arrivant auprès de moi, ma baigneuse laissa glisser sur ses épaules la mantille qui lui couvrait la tête, et à l'obscure clarté qui tombe des étoiles, je vis qu'elle était petite, jeune, bien faite, et qu'elle avait de très grands yeux. Je jetai mon cigare aussitôt.
Elle comprit cette attention d'une politesse toute française et se hâta de me dire qu'elle aimait beaucoup l'odeur du tabac et que même elle fumait quand elle trouvait des papelitos bien doux. Par bonheur, j'en avais de tels dans mon étui et je m'empressais de lui en offrir. Elle daigna en prendre un et l'alluma à un bout de corde enflammée qu'un enfant nous apporta moyennant un sou. Mêlant nos fumées, nous causâmes si longtemps, la belle baigneuse et moi, que nous nous trouvâmes presque seuls sur le quai. Je crus n'être point indiscret en lui offrant d'aller prendre des glaces à la Neveria. Après une hésitation modeste, elle accepta. Mais avant de se décider, elle désira savoir quelle heure il était. Je fis sonner ma montre et cette sonnerie parut l'étonner beaucoup.
« Quelle invention on a chez vous, messieurs les étrangers? De quel pays êtes-vous, monsieur? Anglais sans doute ?»«
Français et votre grand serviteur. » « Et vous, mademoiselle ou madame, vous êtes probablement de Cordoue ?»«
Non. »«
Vous êtes du moins andalouse. Il me semble le reconnaître à votre doux parler. »«
Si vous remarquez si bien l'accent du monde, vous devez bien deviner qui je suis. »«
Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à deux pas du paradis. » J'avais appris cette métaphore qui désigne l'Andalousie de mon ami Francisco Sevilla, picador bien connu.
Bah, le paradis! Les gens d'ici disent qu'il n'est pas fait pour nous.
Alors, vous seriez donc mauresque? Ou... Je m'arrêtais, n'osant dire juive.
Allons, allons! Vous voyez bien que je suis bohémienne. Voulez-vous que je vous dise la Barria? Avez-vous entendu parler de la Carmencita? C'est moi!
J'étais alors un tel mécréant. Il y a de cela 15 ans que je ne reculais pas d'horreur en me voyant à côté d'une sorcière. Bon, me dis-je. La semaine passée, j'ai soupé avec un voleur de grand chemin. Alors aujourd'hui, prenons des glaces avec une servante du diable. En voyage, il faut tout voir. J'avais encore un autre motif pour cultiver sa connaissance. Sortant du collège, je l'avouerai à ma honte, j'avais perdu quelque temps à étudier les sciences occultes et même plusieurs fois, j'avais tenté de conjurer l'esprit de ténèbres. Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant de perfection. Sa peau, d'ailleurs, parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus. Ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées, et laissant voir des dents plus blanches que des amandes sous leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme l'aile d'un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d'une description trop prolixe, je vous dirais en somme qu'à chaque défaut, elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, « œil de loup », c'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau.
Vous écoutez En toutes lettres sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Dans la nouvelle comme dans l'opéra, Carmen est une femme damnée. Pourtant, elle est celle qui décide de tout, mais paie d'un coup de poignard son mode de vie libre jusqu'à l'insolence. Une liberté absolue, jusqu'à ne pas s'encombrer des valeurs de la promesse et de la fidélité. Certains la disent manipulatrice et égoïste, mais on peut aussi penser qu'au contraire, elle vit simplement au jour le jour et envoûte les autres par cette seule force, par son détachement insolent. Le tout dans une ambiance très chaleureuse et festive, qui sert de décor à cette tragédie. Mais l'ambiance est aussi fort réaliste dans la nouvelle de Mérimée. Il nous emmène dans le bas-peuple, parmi les contrebandiers, les ouvriers, bref, le prolétariat de Séville. En tant que gitane, Carmen cristallise beaucoup de fantasmes dans la façon dont elle est représentée. L'exotisme, la marginalité, le mélange des cultures. Et elle est aussi un petit peu l'allumeuse, et c'est cela qui plaît autour d'elle. Allumeuse, c'est le cas de le dire, puisqu'elle est cigarière et s'envole comme la fumée. Carmen est un oiseau libre en tout, travail, amour, déplacement. En réalité, Carmen se comporte ni plus ni moins que comme beaucoup d'hommes. On peut penser à Don Juan, Casanova et un peu moins glorieux toute une cohorte de petits dragueurs autour d'elle. Et cela pose encore aujourd'hui une vraie question, et le personnage de Carmen fait toujours débat. Alors, est-elle une sale égoïste manipulatrice? Ou bien une femme tout simplement beaucoup trop indépendante pour son temps, à plus forte raison quand on est une pauvresse et une gitane avec tous les stéréotypes que cela entraîne. En cela, son histoire est tragique. Elle mêle déchéance et passion fatale. Est-ce la femme qui est ici fatale, ou bien la passion de l'homme, Don José, pour elle? Il se fait brigand, puis meurtrier, pris dans le feu de son amour. Carmen symbolise à l'époque la fascination pour le mal. D'ailleurs, en latin, Carmen signifie aussi bien le chant que le charme ou encore l'incantation. En fond, il y a donc tout l'univers fantasmagorique de la gitane sorcière. Elle croit au destin, elle lit l'avenir dans les lignes de la main, elle chante, danse et se fait même un petit peu guérisseuse. On ne connaît pas bien ses origines. Elle est juive, elle est gitane, elle est égyptienne, on ne sait pas bien. Et à cela s'ajoute un certain lien avec l'animalité. L'auteur la présente avec un regard de loup, ses pupilles sont celles d'un chat jouant cruellement avec des moineaux, ses cheveux ressemblent aux ailes de corbeau. Tout le contraire donc d'un Don José blond aux yeux bleus, incarnant aussi une confrontation entre sa culture basque et celle de Carmen éprise d'une liberté absolue. Si Carmen n'est vraiment pas une sainte, Don José est quant à lui un homme terriblement possessif et jaloux, alors on peut se demander du côté de qui est la tragédie. La structure du texte participe à donner à cette histoire une portée mythique, avec un troisième personnage, en plus de Carmen et Don José, qui est le narrateur érudit qui fait le récit de la déchéance de Don José et qu'il voit comme un homme déchu. C'est aussi un double fictif de Mérimée, qui est passionné par l'Espagne et par les voyages. L'Espagne qu'il décrit ici comme très exotique, marquée par une forte couleur locale et sur laquelle l'opéra a énormément su insister, avec des airs très rythmés, des chants gitans, mais aussi des références à des instruments d'Égypte, comme dans la danse de Carmen dans la taverne, dont on écoute un petit extrait.
La danse aux champs se marie, d'abord indécise et timide, puis vive ensuite et plus rapide, sera
Carmen au moins n'a tué personne, contrairement à notre dernière protagoniste, la ravissante mais sanglante princesse Turandot. Elle est connue grâce à l'opéra de Puccini, mais son histoire vient d'une pièce signée Carlo Gozzi, elle-même intitulée Turandot. Eh bien, quelle est cette histoire? Nous sommes à Pékin, au Moyen-Âge. C'est la nuit, et Turandot fait décapiter un énième prétendant qui, après tant d'autres, a tenté de résoudre les trois énigmes imposées par la princesse à qui veut sa main. Turandot veut en effet rester vierge et libre, pour venger son ancêtre qui a été capturé puis violé. À peine cette exécution terminée, qu'un nouveau prétendant, le prince Calaf, s'éprend de Turandot et décide de tenter l'épreuve, malgré les supplications de son père et de sa jeune esclave, Liu, secrètement amoureuse de Calaf. La suite, si vous êtes curieux, eh bien c'est dans le livret ou en écoutant l'opéra. Ici donc, nous avons une femme incroyablement belle qui répand le sang des hommes qui veulent la posséder absolument. Le tout sous le regard de la déesse Lune. L'on peut aisément mettre cette Turandot en rapport avec une légende des Indiens Kashinawa que rapporte Claude Lévi-Strauss dans son ouvrage intitulé « Mythologique ». Elle veut qu'autrefois, il n'y avait pas de lune, mais une femme nommée Lune est chassée par sa mère à cause de son caractère têtu. Elle lui reproche notamment de ne pas vouloir se marier. Désespérée, la jeune femme devient folle et sa mère finit par lui trancher la tête. La nuit, la tête roule autour de la maison de la mère, puis se transforme finalement en la lune. Et c'est ainsi qu'on ne la verrait que de loin. C'est aussi pour cette raison que les femmes saigneraient chaque mois. Turandot est-elle aussi une lune libre qui refuse de se marier, comme dans beaucoup de traditions mythiques, la femme sauvage, chasseresse et sans époux, est cependant cruelle et liée au sang. D'ailleurs, Turandot est peut-être inspirée également de l'impératrice chinoise Wu Zetian, très intelligente et qui, au 7e siècle, a fait beaucoup pour la prospérité de la Chine, mais a aussi été d'une cruauté légendaire. Mais revenons à l'histoire de Turandot. Même quand elle est absente sur scène, l'on ne parle que d'elle et elle est omniprésente, le tout se déroulant la nuit et avec la symbolique omniprésente de la lune représentant la Vierge dangereuse. Autour de Turandot, il y a un peuple fantoche et versatile qui tantôt la craint, tantôt la vénère, tantôt l'envie. Et surtout, il y a un père, empereur, qui n'est qu'une poupée de chiffon puisqu'en réalité, c'est elle qui gouverne et rend la cité prospère. Quant à ses condamnés, leurs têtes sont accrochées sur des pics, de sorte qu'ils ont l'air d'embrasser la lune. Turandot rentre dans cette longue tradition de l'imaginaire, plaçant les femmes du côté du nocturne, du souterrain et des forces mystérieuses. Ce sont elles qui sont fécondes, portent la vie et potentiellement la mort, et cela engendre tous ces fantasmes ambivalents et mystiques à leur sujet. Sans compter que Turandot est belle, surhumaine et impériale. Elle veut venger son ancêtre violé dont elle évoque le cri dans le palais. « Ce cri s'est réfugié dans mon âme, » dit-elle. C'est pour toutes les autres femmes qu'elle veut être résistante, mais à quel prix? En effet, Turandot sacrifie des hommes, mais elle sacrifiera aussi une femme, l'autre femme de l'histoire, le pendant négatif de la princesse froide, à savoir Liu, une petite esclave tendre et amoureuse. Avec Turandot, c'est la question de l'ordre et des rapports de pouvoir qui est en jeu, avec cette femme du côté de la nuit, tandis que l'ordre masculin, lui, exerce au grand jour. « Ma gloire est finie, » soupire Turandot, quand paraît le soleil et, avec lui, désert à la gloire de l'empereur, volontairement enflé et ridicule dans l'opéra. Ainsi, Turandot est une femme fatale, au sens le plus fort et le plus propre, puisqu'elle tue sans cesse, et, à la fin du premier acte de l'opéra, quand le prince souhaite tenter les épreuves pour l'amour de Turandot, tout le monde veut le faire descendre de son orgueil et le ramener à la raison. Dans un grand air en crescendo que l'on va écouter, un air où les voix s'ajoutent les unes aux autres jusqu'à l'explosion finale, le père du prince, son esclave et toute la ville se mettent à l'avertir à coups de « Oh, pauvre fou! C'est la lune seule que tu embrasseras. Pour toi déjà nous creusons la tombe, ô toi qui défie l'amour. »
Oh,
donc pour conclure comment s'est construite cette image de la femme mortifère. Des mythes païens au Malleus Maleficarum, un ouvrage du XVe siècle à l'origine d'une grande part de notre imaginaire de la sorcière, en passant par la Bible, la croyance et l'expression des peurs de l'obscur, de ce qu'on ne connaît pas, y sont pour beaucoup dans l'imaginaire de la femme fatale, dont la beauté est liée à la dangerosité. Dans les imaginaires archaïques, les femmes sont attachées à l'idée d'une puissance de l'obscurité. Elles sont liées à la terre, au mystère de la vie et de la mort, au secret de leur ventre. Jean-Pierre Vernon nous explique cela dans ses analyses de la pensée grecque et dans son ouvrage « Pandora, la première femme ». Pandora est en effet cette femme merveilleuse qui estomaque les hommes et qu'ils ne peuvent voir sans se retenir d'être séduits. Alors Zeus déclare que cet être, qui vient d'être créé artificiellement, est la première femme, l'ancêtre de toutes les femmes comme Ève dans le judéo-christianisme. Elle est appelée Pandora dans le texte, car elle est le cadeau que tous les dieux font aux hommes. En effet, en grec, pan signifie tous et doron, cadeau. Ces femmes fatales sont donc fascinantes, brillantes, mais aussi menaçantes, en cela qu'elles incarnent la crainte devant ce qui échappe à la compréhension, et elles amènent à reconsidérer les lois, l'ordre des choses, pour le meilleur et pour le pire des actes. Et c'est là-dessus que s'achève notre premier numéro. Je me suis appuyée pour construire cette émission sur l'article « Femme fatale » de Sophie Rosemont, l'ouvrage de Catherine Clément, « L'opéra ou la défaite des femmes ». Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « Les liaisons dangereuses » 1960 de Roger Vadim et « Les liaisons dangereuses » de Stephen Frears. Enfin, pour les musiques diffusées, nous avons « La danse de la gypsy » dans l'opéra « Henri VIII » de Camille Saint-Saëns, « L'air de la belle Hélène » de Jacques Offenbach, un extrait de la bande-son du film « Agora », un passage du générique des Liaisons dangereuses de Stephen Frears, une musique de la série Hannibal, la mélodie de From Russia with Love, l'air L'amour est un oiseau rebelle de Carmen, de Bizet, toujours dans Carmen, la danse Les tringles des sistres tintaient, et enfin le final du premier acte de l'opéra Turandot de Giacomo Puccini. Et c'était Janie, littérairement vôtre, pour Radio Campus Grenoble 90.8.